rappeler le passé et l'avenir au secours du présent.
Le beau est toujours bizarre.
Non, je n'y crois pas.
Rien ne distingue les souvenirs des autres moments.
Le bizarre est souvent beau.
C'est cette bizarrerie qui le fait être particulièrement le beau.
Le beau bizarre.
Non, oui, pour moi, oui.
De Zineb Souleymane.
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Le Beau Bizarre, un espace sonore libre et hybride. Un espace façonné avec soin et exigence, même en temps de canicule. Et pour ce 85e épisode, c'est le temps lent qui prend sa revanche. Cela faisait plusieurs années que je souhaitais enregistrer un épisode avec Feda Wardak. Il aura fallu la présentation de Ce que le ciel ne sait pas au Festival de Marseille pour que cette rencontre, longtemps espérée, puisse enfin avoir lieu. Je suis heureuse de vous partager mon échange avec Feda Wardak. Bonne écoute à vous. Bonjour Feda Wardak, merci d'avoir accepté mon invitation dans Le Beau Bizarre.
Bonjour Zineb, merci de m'accueillir.
Vous êtes architecte de formation, artiste, chercheur, éditeur et dans un sens auteur de récits. Votre travail se situe à la croisée de plusieurs champs, l'art contemporain, l'architecture, la performance, le cinéma, l'édition. Mais il est traversé par une même question, comment lire les traces laissées par l'histoire dans les territoires, les paysages et les corps. L'architecture n'est jamais très loin dans votre pratique, non pas comme un art de bâtir, mais comme une méthode d'enquête, une manière d'observer les infrastructures, les ruines, les usages, les circulations et les rapports de pouvoir qui organisent un espace. Depuis plus de 15 ans, cette recherche vous conduit régulièrement en Afghanistan et plus particulièrement dans le district de Jarartu, dont votre famille est originaire. En parallèle de projets présentés notamment à la Biennale d'architecture de Venise, au MacVal ou à la Biennale de Lagos, vous développez depuis plusieurs années une vaste recherche intitulée « Chercheur d'eau », un projet à la fois artistique, documentaire et archivistique consacré aux carèzes, ces réseaux hydrauliques souterrains qui ont permis pendant des siècles de faire circuler l'eau dans des régions arides d'Afghanistan. À travers eux, c'est une histoire beaucoup plus vaste qui apparaît, celle des guerres, des déplacements forcés, des savoirs menacés de disparition, mais aussi des formes de résistance qui persistent sous la surface. Car chez vous, l'eau n'est pas uniquement une ressource, elle devient un révélateur, un moyen de comprendre comment un territoire se transforme, comment une mémoire se transmet, comment une communauté continue d'habiter un lieu malgré les violences qui l'ont traversé. Cette attention aux traces irrigue également Ce que le ciel ne sait pas, une œuvre qui propose de déplacer le regard porté sur l'Afghanistan, longtemps observé depuis le ciel, celui des satellites, des drones, des cartes militaires et des récits géopolitiques et médiatiques, pour revenir au sol, au corps, aux gestes et aux histoires qui échappent aux images de surplomb. Nous allons revenir sur cette création présentée dans le cadre du Festival de Marseille, mais j'aimerais commencer plus en amont. Pendant longtemps, vous avez travaillé sur les périphéries urbaines, les transformations du territoire et les formes contemporaines de domination spatiale. Pourtant, vous avez longtemps résisté à faire de l'Afghanistan un sujet de travail. Pourquoi ? Était-ce une manière de vous protéger de récits déjà produits sur ce territoire ou la conviction qu'il fallait d'abord trouver une juste distance avant de pouvoir y revenir et surtout de partager cette recherche ?
Merci pour, je ne sais pas si c'est une introduction, mais en tout cas cette présentation très précise. Je pense que c'est important de le saluer. Du coup, je me raccroche à la fin où j'ai l'impression que c'est le moment où il y a une question qui s'écrit. Et j'ai la sensation que dans la question, il y a déjà une forme de réponse dans laquelle je me reconnais. C'est-à-dire que j'ai travaillé depuis 15 ans en Afghanistan, mais plutôt sous la forme de recherche, d'archives, d'écriture beaucoup, de choses qui m'ont alerté et qui m'ont passionné dans la manière dont ces sociétés se sont établies, notamment autour de l'eau, et on en parlera peut-être plus tard. Et de fil en aiguille, cette recherche s'est transformée en production de terrain, que ce soit par l'artisanat ou la restauration de réseaux hydrauliques et de savoir-faire. Et ça m'allait de rester à cet endroit plutôt d'artisan, plutôt que d'artiste, ou d'utiliser cette matière pour en faire des œuvres dans des géographies qui sont plutôt occidentales et où j'étais sollicité comme artiste. Parce que je crois que j'étais pas à l'aise à l'idée qu'on me renvoie soit exclusivement à ça, ou qu'il y ait presque un désir de vouloir coûte que coûte parler que de ça. Il y avait comme une sensation qui me mettait mal à l'aise de vouloir extraire cette partie-là de mon identité alors que j'étais en train de la construire aussi et de travailler dessus et avec. Et donc oui, je l'ai maintenu à distance, je dirais, du monde de l'art, mais beaucoup moins à distance de ma pratique de chercheur. J'ai écrit dessus beaucoup, que ce soit des papiers ou des publications. Et j'ai sans cesse travailler sur le terrain, là-bas, en direct. Mais je l'ai moins fait exister dans mes réseaux artistiques occidentaux, on va dire.
On va creuser cette réponse-là, parce que Chercheur d'eau, ce n'est pas une œuvre unique, justement. Enfin, en tout cas, ce n'est pas un projet de recherche linéaire ou figé. C'est une constellation, un répertoire, vous aimez à dire, une recherche totale appelée à se déployer sur plusieurs années, peut-être plusieurs décennies. Une recherche qui rassemble films, installations, performances, créations sonores, enquêtes de terrain et récits situés. C'est important aussi de déployer aussi toutes les formes et tous les médium que cette recherche intègre. Et depuis donc plus de 15 ans, vous le disiez, vous y documentez les systèmes hydrauliques traditionnels afghans, mais aussi les savoir-faire, les gestes, les mémoires et les formes de résistance qui sont aussi liées dans un sens. J'aimerais comprendre comment cette recherche, elle s'est construite avec toutes ces couches-là et à quel moment vous avez compris qu'il ne s'agissait plus seulement de documenter un territoire ou des savoir-faire menacés, mais aussi de construire un répertoire capable de faire circuler d'autres récits, d'autres manières de regarder et de raconter l'Afghanistan.
J'aimerais revenir à peut-être la genèse de ce projet. En fait, je pense qu'il s'est passé deux choses. Moi, comme vous l'évoquez, je travaillais beaucoup sur la question des marges. Qu'est-ce qu'on appelle des marges ? C'était très lié à la question de contradiction urbaine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans le cadre d'une rénovation urbaine, dans des territoires qu'on ne regarde plus, qui sont abandonnés politiquement, et où j'ai été sollicité beaucoup par des collectifs citoyens. Et donc, pendant quasiment une dizaine
d'années, en France,
j'ai travaillé à Clichy-sous-Bois-Montfermeil et surtout au départ à Saint-Paul-sur-Mer dans le Dunkerquois, où ma casquette d'architecte et de personne qui s'intéresse beaucoup aux enjeux urbains a été beaucoup plus sollicitée que ma pratique artistique. Et donc, c'est aussi des sujets qui me concernaient, c'est aussi des endroits dans lesquels j'ai grandi, donc j'avais une compréhension de certains codes. Et en parallèle de ça, je travaillais, moi, en Afghanistan, sur les sujets qui étaient les miens, plutôt en vase clos. Et il y a eu le 2021, c'est-à-dire à la fois le retrait des troupes occidentales et la prise de pouvoir des talibans. Et j'ai été extrêmement sollicité à ce moment-là par différentes institutions artistiques, par des directions de lieux, par le ministère. Et ça m'a beaucoup interrogé. Pourquoi à ce moment-là, évidemment que j'en avais conscience, mais il y avait une forme d'hypocrisie qui a existé et qui m'a beaucoup dérangé sur le fait d'un coup de crier au scandale sur ce qui se passait en Afghanistan par rapport à cette prise de pouvoir, alors qu'en fait la condition de beaucoup de populations en Afghanistan était similaire sous les années d'occupation. C'est un sujet complexe, je pense que ça demanderait du temps d'aller plus loin, mais ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est pas tant ce qui se passait là-bas, c'est la manière dont ce qui se passait là-bas était instrumentalisé ici et déresponsabilisé complètement, pour le dire, l'endroit de responsabilité des États occidentaux. C'est-à-dire qu'on n'est pas arrivé à cette situation par hasard, il s'est passé des choses, il y a eu 45 ans d'impérialisme en Afghanistan, impérialisme occidental, et donc je pense que c'était important pour moi aussi d'entendre les endroits de responsabilité des institutions françaises par rapport à l'État français. Et il n'y avait pas de ça, c'est-à-dire qu'on était dans quelque chose de rapide et ça me dérangeait profondément. Et donc je me suis dit, c'est peut-être aussi le moment maintenant pour moi de mettre en résonance certains récits sur lesquels je travaille depuis longtemps. Et c'est là qu'est né le répertoire Chercheur d'eau. C'est-à-dire que de mon travail sur les marges en France, j'ai été sollicité à beaucoup d'endroits ensuite où on m'a demandé de faire la même chose. Sauf que c'est pas des recettes qu'on applique. Moi, j'avais des relations avec les collectifs citoyens avec lesquels je travaillais, je voulais pas les rompre. Et donc c'est aussi le moment où je me suis dit, plutôt que de continuer à partir des recherches de certains territoires où je ne pouvais plus parce que d'un coup, travailler sur 7 territoires en même temps, c'est pas possible. J'ai plutôt fonctionné différemment en me disant, j'ai envie d'ouvrir une recherche maintenant sur mon travail en Afghanistan, et que même si on m'invite dans les basses Alpes pour faire une exposition, je préfère ramener ces recherches-là et de voir comment est-ce que ça peut faire écho avec les basses Alpes, où il y a aussi une histoire de sourciers, et donc de ramener l'Afghanistan dans ces endroits-là et de voir comment avec des pratiques locales on pouvait créer des ponts et des histoires communes, c'est ça qui m'a intéressé. Donc c'est là que je me suis dit, tiens, Chercheur d'eau devient intéressant, c'est-à-dire que ça me permet de produire des œuvres, de créer une économie autour de ces œuvres, de réinjecter une partie de cette économie là-bas, de faire des projets aussi depuis là-bas, depuis ces projets-là, de renourrir d'autres œuvres ici. Et du coup, il y a quelque chose entre l'économie et la recherche qui trouve son équilibre et qui se manifeste au sein de ce répertoire qui, comme vous le disiez, n'a pas de date limite, je verrai jusqu'à quand je le travaille, et n'a pas de médium prédéfini. C'est-à-dire qu'en fonction du récit que je veux raconter, je regarde quel est le médium le plus adapté, si c'est un film, une peinture, une broderie, une création chorégraphique, et ensuite on s'entoure des personnes qui portent ces savoirs et on bosse les projets ensemble.
C'est très intéressant parce qu'il y a plusieurs fils que j'aimerais tirer dans votre réponse, mais je pense qu'on prendra le temps de les déplier au fur et à mesure, notamment cette idée puissante d'une économie circulaire générée autour de ces projets-là. Je pense qu'on pourra clôturer peut-être notre échange avec ça, parce que ça permet d'ouvrir encore d'autres questions, mais rester peut-être encore sur le regard porté sur l'Afghanistan et vous expliquer que souvent l'Afghanistan était regardé depuis le ciel, celui des drones, celui des satellites, des cartes militaires ou des dispositifs de surveillance, et vu du ciel, un territoire devient une cible, une zone zone, une donnée, une tâche thermique. Les corps cessent d'être des vies, les sols cessent d'être habités, les morts deviennent suspects avant même d'avoir été pleurés dans un sens. Et j'aimerais que l'on s'arrête sur cette image vue du ciel pour comprendre qu'est-ce que ce point de vue produit sur le territoire qu'il observe et à partir de quel moment vous vous êtes dit que ce point de vue-là allait être fécond dans cette recherche que vous menez.
Tout a commencé quand j'ai pris conscience des catastrophes socio-naturelles causées par la guerre. Et la principale, c'est la sécheresse. C'est-à-dire qu'au départ, je n'ai pas fait ce lien direct. Et je l'ai compris à partir du moment où les voies d'eau qui permettaient d'alimenter les piémonts des montagnes dans des zones extrêmement désertiques ont commencé à ne plus être alimentées en eau. Parce que des réseaux d'eau ont été pris pour cible par les drones. Et c'est une stratégie militaire, c'est-à-dire que s'en prendre à des réseaux hydrauliques, c'est priver une population d'eau, et donc la priver de survie. Et dès lors qu'en fait on ne peut plus survivre, on est condamné à l'exil, on devient ce que j'appelle un produit de la guerre, et on s'en va. Et dès lors qu'il n'y a plus de corps sur une terre, sa protection et sa défense et sa résistance n'est plus possible. Et donc l'appareil impérialiste prend le contrôle de la terre. C'est aussi simple que ça. Quand j'ai compris ça, j'ai commencé à m'interroger sur « Ok, ça c'est la conséquence que je vois sur le terrain, mais si on tire le fil, comment est-ce que ça s'organise ?» Et en fait, à l'autre bout du monde, dans le désert du Nevada, l'US Air Force a lancé au milieu des années 2000 un programme de gaming, c'est-à-dire qu'ils ont construit dans un autre désert des très grands entrepôts où des milliers d'adolescents et d'enfants pouvaient se réunir et ils jouaient à des jeux vidéo de guerre. Et les meilleurs d'entre eux ont ensuite été approchés pour suivre des formations sur 3 ans pour devenir pilotes de drone. Et donc, les gamers sont devenus des pilotes de drones à leur majorité. Et donc, depuis cette base lointaine, d'un coup de joystick, en fait, ils pouvaient bombarder le désert afghan. Et ce qui est intéressant quand on s'intéresse aux archives déclassées et notamment ce que racontent les psychologues de guerre, c'est que plus on a de la distance entre deux géographies, plus notre capacité à agir avec violence augmente. Et la question de la distance, elle devient intéressante dès lors qu'on la lie aux facteurs aussi temporels. C'est-à-dire que dans le désert du Nevada, quand il faisait jour, on survolait un territoire dans lequel il faisait nuit, parce qu'il était à l'autre bout du monde. Et cette relation nuit-jour, moi, elle m'a beaucoup intéressé. C'est un marqueur de la distance, en fait. On n'est pas du tout dans les mêmes espaces temporels. Et,
Donc dépourvu d'empathie possible aussi.
Tout à fait. C'est la question de l'empathie qui se perd. La distance est la première chose, et ensuite le point de vue. Le point de vue, dès lors qu'on regarde du ciel, en fait, les pilotes de drones, dans les archives déclassées, on a des témoignages, et ils racontent eux-mêmes qu'en fait, les corps n'avaient plus de forme humaine. On ne sait pas si c'est un homme, une femme par moment, on ne sait pas si c'est un enfant, donc encore moins ce que fait la personne. Donc on n'a plus du tout de relation à la sociologie du territoire. Et les chercheurs d'eau ont été pris pour cible, parce que les chercheurs d'eau avec lesquels moi je travaille, ils ont des baguettes de sourcier, ils cherchent l'eau, ils mesurent des distances, ils creusent le sol, ils placent des pierres. Et ces gestes-là, depuis le ciel, ils sont vus en tant que tâches thermiques, donc on n'a même pas un rapport au corps qui est celui qu'on voit, mais c'est des tâches. Et cette tâche-là, elle est perçue depuis une personne qui a 18-20 ans, qui est dans le Nevada à ce moment-là, dans un conteneur, et qui n'a pas de compréhension sociologique ou culturelle de la personne qui l'observe. Et à cela s'ajoute le fait que les drones avaient intégré déjà des intelligences artificielles à l'époque, qui permettaient d'établir des profils suspects. Je pourrais en parler, mais c'est des choses qui sont plus complexes et qui prendraient du temps, mais à partir du moment où des profils suspects sont établis, au sein de ce qu'on appelle une killbox, donc les termes veulent dire que c'est des boîtes virtuelles 3D dans lesquelles tout tir est permis à partir du moment où le nom est inscrit dans ce qu'on appelle une kill list, donc une liste de personnes à tuer. Et cette kill list, elle était amenée tous les mardis sur le bureau de Obama, dans ce qu'on appelait le mardi de la terreur, le Terror Tuesday. Et Obama décidait de qui devait mourir ou qui devait rester en vie. Et toutes ces datas, en fait, elles étaient collectées par l'intelligence artificielle au sein du drone lui-même. Donc c'est-à-dire que le drone avait une toute-puissance omnisciente pour décider de qui devait mourir ou non. Et c'était évidemment Obama après qui disait oui ou non. Mais ça, c'est la réalité de ce qu'il s'est passé sur ce territoire-là. Et donc, les chercheurs d'eau ont été des gens qui ont été extrêmement pris pour cible aussi parce qu'ils cherchaient de l'eau. Et parce que l'eau permettait d'établir les populations et donc de permettre une résistance.
The word forensis,
le mot forensis, en fait, est latin pour le forum et l'origine du terme forensic en anglais ou dans d'autres langues européennes. Et là, forensis signifie la présentation des faits dans le forum, au forum en public, pour que tout le monde puisse le voir. En attendant, dans le processus de modernisme, le mot forensic a été réduit, télescopé, si vous voulez, dans la présentation de la science dans un cadre légal, juridique. Et ça s'est rétréci dans ce sens. Je voudrais revenir à l'origine du terme forensis, comme il a été utilisé dans les grands orateurs du premier siècle à Rome, nous voulons présenter publiquement des faits. Et c'est un mouvement politique important, pas simplement quelque chose de juridique ou de technique. J'ai grandi en Palestine, Israël. Je suis un juif israélien, mais j'ai fait toujours partie du mouvement anticolonial et de la lutte anticoloniale en Palestine. Et avoir grandi dans ce contexte, on voit à quel point l'architecture elle-même, la construction de routes, de maisons, de checkpoints, de murs, peut fonctionner comme des armes, comme un instrument qui viole en fait les droits de l'homme, viole les droits internationaux, devient des instruments de colonisation. Donc d'un côté, si l'architecture peut être une arme, et si le travail architectural peut être un crime, la connaissance, le savoir architectural peut l'exposer, le montrer. Et c'est l'origine de cette pratique en cartographiant les violations des droits humains faites sur les tables des architectes dans les territoires occupés et à travers la Palestine, montrant que l'architecture peut en fait violer les droits humains.
Alors, en préparant cette rencontre, j'ai beaucoup pensé au travail d'Eyal Weizman qu'on vient d'entendre, architecte, chercheur et fondateur de Forensic Architecture. Il a développé une méthode d'enquête qui consiste à partir des traces laissées sur les territoires, bâtiments détruits, paysages transformés, images satellites et témoignages situés pour reconstruire des événements et interroger les récits dominants surtout. Et en découvrant Chercheur d'eau, j'ai eu le sentiment qu'il existait aussi une proximité entre vos démarches. Comme eux, vous partez des traces, des sols, des infrastructures et des cicatrices surtout aussi laissé par la violence, mais là où l'enquête forensique cherche à produire de la preuve, vous semblez chercher à produire de l'attention, à produire des formes artistiques et sensibles, à réparer aussi peut-être modestement. Et puis dans ce qu'il dit là, il y a aussi l'idée que l'architecture peut aussi être une arme. Vous êtes architecte vous-même, donc aussi revenir à cette pratique. Enfin voilà, est-ce que c'est déjà une lecture juste d'amener à cette autre méthode-là dans ce que vous disiez aussi précédemment ?
Merci pour cet extrait. Évidemment, je me reconnais beaucoup dans la démarche d'Eyal Weizman et de Forensic Architecture. C'est des choses qui m'ont beaucoup nourri aussi, qui m'ont fait du bien aussi en découvrant ce travail pendant mes études. Au sein de la plateforme éditoriale qu'on avait montée, on était aussi allé l'interviewer en 2018, je crois. Donc ouais, son travail fait beaucoup écho en moi, notamment dans les années précédentes. Ça m'a beaucoup nourri et inspiré. Et sur comment est-ce que la question de l'enquête ou de l'archive peut exister dans mon travail? C'est vrai qu'il y a peut-être quelque chose où moi je pars des gens de ma famille, de mes proches, de ces récits dans lesquels j'ai grandi, qui ont été ciblés, certains qui sont partis, qui sont morts à cause des bombardements, qui ont été tués, pour le dire clairement. Une personne qui a survécu à une attaque de drone, un de mes grands-oncles, avec lequel je travaille beaucoup, et notamment le point de départ et la relation à l'archive, la trace, c'est, je pense, partie de lui, il y a 4-5 ans, où il énonce, en fait, son corps a été ciblé par une attaque de drone, il y a survécu, mais il est plein de cicatrices. Et souvent, il y a ces mots qu'il a utilisés qui sont de dire « lorsque je serai enterré, qui racontera ce qui s'est passé ?» Parce qu'en fait, quand on parlait des points de vue tout à l'heure, que ce soit médiatiquement ou militairement, l'Afghanistan a beaucoup été raconté d'au-dessus. Comment est-ce qu'on fait à un moment donné pour ramener le point de vue à hauteur d'humain ? Et je crois que c'est ça qui m'intéresse dans les manières d'archiver ou de produire des œuvres d'art, c'est comment est-ce qu'on donne à voir des contre-récits avant qu'ils ne s'effacent, avant que ces corps ne soient plus là, avant que les personnes concernées ne soient plus là pour en parler. Et donc c'est à cet endroit-là que j'essaye d'agir au sein de ce répertoire chercheur d'eau. C'est comment finalement cette communauté à laquelle j'appartiens peut à un moment donné se raconter, et moi je peux la raconter parce que je pense que c'est aussi important que je fasse les choses pour moi. Ça c'est quelque chose qui est très important parce que j'existe aussi à un endroit qui est entre et qui est partout, enfin aux deux endroits en même temps. Et donc j'ai une lecture des récits et de leurs contre-récits. Et j'ai une compréhension du récit dominant et j'arrive à le déconstruire. J'ai un accès aux corps opprimés et à ce qu'ils ont besoin d'exprimer. Après, est-ce que les formes que je mets en œuvre sont les bonnes? Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, dans la méthodologie, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est pour ça aussi, je pense que toute la recherche que j'ai fait au départ m'a beaucoup servi parce que ça m'a permis aussi de comprendre, de cartographier les acteurs, de comprendre les enjeux, de comprendre le fonctionnement de cette société. Et ensuite, je mets ça en forme aujourd'hui dans ce répertoire Chercheur d'eau.
J'aurais deux questions, mais peut-être la première, c'est aussi, est-ce que c'est une question que vous posez sur comment qualifier votre pratique, par exemple. Enfin, peut-être qu'on doit plus vous la renvoyer, que c'est une question qui émanerait de vous, mais par exemple, l'équipe de Francis Garcia affirme qu'elle brouille volontairement les frontières entre activisme, art et journalisme. Est-ce que vous, c'est une volonté de brouiller ou au contraire de vous situer entre toutes les étiquettes qu'on pourrait vous coller ?
Je crois que ça m'importe peu de savoir comment est-ce qu'on me qualifie. Aujourd'hui, je pense que là où je me reconnais le plus pour me définir moi-même, c'est dans une pratique artistique. Je pense pas que ma pratique soit activiste. En tout cas, je la défends pas comme ça. Je dirais simplement que j'ai aujourd'hui besoin de raconter des histoires pour moi et que j'essaie de trouver les médiums les plus adaptés pour les raconter. Et je crois pas qu'on ait à se contenter d'un médium. Je pense que le médium est juste un outil.
Une solution.
Enfin, c'est de trouver l'outil le plus adapté, la forme qui s'y associe pour mettre en récit un propos. Et donc, c'est aussi pour ça que je me permets de naviguer entre les différents médiums que vous avez énoncé plus tôt.
Et pour revenir du coup à l'archive qui est ce matériau polysémique, polyforme, elle n'apparaît pas comme juste un outil de conservation dans votre travail. L'archive, elle semble plutôt devenir aussi une matière vivante, capable de réactiver des savoirs, des récits et des contre-récits presque, et des formes de transmission menacées, de disparition aussi. Qu'est-ce qui vous intéresse dans la dimension active de l'archive, que peut aussi faire une archive aujourd'hui, au-delà du simple fait de préserver une mémoire ou de transmettre une mémoire ?
Je pense qu'il y a deux choses qui sont liées à cette envie d'archiver les choses et ensuite je vais expliquer ce que ça veut dire archiver pour moi aussi. Mais la première chose, c'est la question de l'autodétermination et ensuite il y a la question de l'extractivisme. Sur l'autodétermination, je pense que c'est simplement à un moment donné d'avoir des espaces où on peut se raconter par nous-mêmes. Donc c'est assez simple pour moi. Et la deuxième, c'est la question de l'extractivisme. C'est-à-dire que les drones, quand ils survolaient aussi des territoires, il y avait des territoires au sein des killbox dans lesquels les drones avaient un permis de tuer. Qu'ils s'autorisaient eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils établissaient les règles du jeu eux-mêmes sans que les personnes ciblées soient au courant. C'est de montrer la violence de tout ça. Et c'est des endroits dans lesquels on a aussi sondé les territoires pour éventuellement voir quelles ressources pouvaient s'y trouver. Et donc on les a aussi extraits. Il y a trois formes d'extractivisme auxquelles je m'intéresse dans ma recherche et qui sont liées ensuite à la nécessité pour moi d'archiver. Donc la première, c'est celle des ressources, l'extraction des ressources. La deuxième, c'est l'extractivisme des corps. C'est-à-dire dès lors qu'en fait, il n'y a plus de survie possible sur un territoire, on condamne les corps à l'exil. Ce que je disais précédemment, c'est ce que j'appelle les produits de la guerre. C'est aussi mon histoire. C'est des corps qui n'ont pas eu le choix que de partir. Et le troisième extractivisme, c'est l'extractivisme des identités culturelles. C'est-à-dire dès lors qu'un corps est condamné à l'exil, soit sur la première génération, soit sur les générations suivantes, de fait, le changement de géographie implique des effacements de langue, implique des effacements de systèmes de pensée, de systèmes de croyances, de rituels, de ce qui fait communauté. Ça, c'est des choses qui, je pense, sont assez importantes pour moi, parce que c'est des stratégies planifiées aussi. Il y a des think tanks militaires américains qui ont aussi cette volonté de casser et d'abîmer cette colonne vertébrale culturelle de certaines sociétés. Parce que c'est ce qui fait résistance aussi. Et donc, dès lors qu'on met en perspective cette question d'extractivisme et comment est-ce qu'on peut lutter contre et cette nécessité de s'autodéterminer par soi-même, c'est de se dire qu'est-ce qu'on veut préserver et quel récit on veut préserver. Et c'est très lié chez moi à la question de préserver les questions d'identité culturelle. Parce que mon propre déplacement m'a interrogé sur ces questions-là, de ne pas avoir à un moment donné un espace pour moi où je pouvais trouver les réponses. Et la guerre induit beaucoup de silence d'une génération à l'autre. On manque d'une génération à l'autre et par les déplacements de certaines réponses qui font qu'on hérite de patterns. On hérite de manières d'agir en société. Ça ne veut pas dire que ceux au-dessus de nous sont responsables de ça, mais qu'à un moment donné, je pense qu'il est nécessaire de rentrer dans ce qui fait silence, de le comprendre pour ne pas l'imposer aux autres. Et ça, c'est aussi des cheminements de vie à un moment donné qui font qu'on comprend nos erreurs, qu'on comprend nos silences, qu'on comprend la manière dont on a besoin à certains endroits de se déconstruire, de se réparer. Et je crois qu'en discutant aussi avec la génération suivante, c'est-à-dire celle de mes neveux et de mes nièces qui sont éparpillées en Europe, je comprends à la fois à quel point pour moi c'est nécessaire aujourd'hui de faire exister un lieu dans lequel, avant que les corps disparaissent, on ait ces récits-là. Et ils sont nécessaires pour moi à la fois pour la jeunesse localement, parce qu'on est dans des changements de régime depuis 50 ans en Afghanistan qui font que l'histoire se réécrit constamment. Et donc, quel est le registre de vérité ? Donc, je pense que c'est important à un moment donné d'établir des outils ou des œuvres qui permettent de raconter un événement selon une perspective à un instant T, à la fois pour la jeunesse localement, mais à la fois pour les diasporas qui, à un moment donné de leur vie, ces diasporas-là auront besoin de réponses et il faut que ces réponses, elles existent dans des espaces qui sont autodéterminés et qui ne sont pas le résultat d'extractivisme. Et donc c'est pour ça que par exemple je travaille aussi sur la construction d'un centre d'archives là-bas qui serait une manière pour moi à travers différents objets qu'on les appelle des artefacts, des œuvres, des récits qui sont des objets qui archivent
selon les codes et les traditions afghanes. Est-ce qu'on doit archiver à l'écrit? Peut-être pas nécessairement. Il y a plein de manières d'archiver en Afghanistan. Ça passe par l'artisanat, la sculpture sur les meubles, les graphismes sur les tapis. Donc il y a différentes formes. Moi, j'ai commencé aussi à mouler les corps des personnes qui ont été blessées. Et donc pour garder la trace de ces cicatrices, parce qu'elles-mêmes, elles disent que dès lors qu'on sera enterré, qui racontera ce qui arrive à nos corps? Donc c'est d'établir tous ces outils ensemble et pour ensuite les archiver et qu'ils soient, accessibles à un endroit donné.
Bah, on peut repartir de cette archive affective, en fait, qui est par exemple la peur de ma grand-mère. La notion de contre-archive, et pourquoi dire contre-archive, par exemple, plutôt que archive alternative? Elle part de deux choses. C'est d'une part la relation entre archive et pouvoir, qui est là, qui a été beaucoup mise à jour par les historiens et les philosophes. Les lieux de conservation, de préservation des mémoires du passé sont souvent liés et à des formes de gouvernement, puisqu'en fait il faut une certaine logistique et souvent donc il y a un lien en tout cas assez complexe entre archives et pouvoir qui est là. Et pourquoi ne pas dire simplement des archives alternatives, des archives fabriquées ailleurs? Contre-archive renvoie à la nature de ces archives-là également. Tout simplement, quand vous archivez vos mails, c'est que vous n'en avez plus besoin. Quand vous archivez une facture EDF, c'est que là, vous estimez que vous n'allez plus l'utiliser. Et donc, on archive ce qui n'est pas dans un usage immédiat, qui n'appartient pas à notre présent en train de se faire. Or, ces traces du passé, et notamment ces traces du passé qui intègrent les traces de la destruction des traces, ces ensembles de traces-là n'appartiennent pas à un passé archivable. Ce n'est pas archivable pour de multiples raisons, et une des raisons, c'est ce que la violence fait à la mémoire, ce que la violence fait aux communautés et la dimension spectrale dont elle peut imprégner nos vies. Ce qui fait que la nature même de ces traces-là a aussi une nature spectrale. Et c'est vrai que moi, dans le film, à un moment, par exemple, quand je filme la maison de mon enfance dont ma grand-mère raconte l'histoire, bien sûr que j'ai le souci ou l'ambition en tant que cinéaste d'arriver à transmettre ce sentiment d'être dans une maison hantée. Donc c'est pour ça que je dirais contre-archive plutôt qu'archive. Et ensuite, il y a une autre question qui se pose. C'est la façon dont les archives ne sont pas uniquement écrites, ne sont pas uniquement visuelles. Et ça, c'est toutes les théories de l'affect qui ont beaucoup amené ça, je pense, à l'histoire. La façon dont une comptine peut être une archive. À un moment, quelqu'un qui n'était pas français m'a fait remarquer que les comptines en France sont extrêmement violentes, sont cruelles. Un petit cochon pendu au plafond, alouette, on lui tire la queue, alouette, je te plumerai. Une souris verte,
évidemment.
Qui courait dans l'herbe. Une souris verte, en fait, c'est, quand on regarde d'où ça vient, une histoire de la guerre de Vendée. C'est une trace, c'est une archive de la violence de la guerre de Vendée. Mettez-la dans l'huile, mettez-la dans l'eau, il en ressortira un escargot tout chaud. Et donc une comptine peut être une archive. Et dans Song of Solomon, par exemple, de Toni Morrison, à la fin, c'est la chanson est une archive.
Un court extrait avec la voix de Shohrah Makarimi dans le film Hitch, une histoire iranienne, et le récent essai Résistance affective explore la façon dont les mémoires familiales, les blessures de l'histoire et les politiques de l'attachement deviennent des formes de résistance face à l'effacement. En découvrant, encore une fois, chercheur d'eau, j'ai eu le sentiment que votre démarche partage quelque chose de ces tentatives de transformer l'héritage intime en espace d'enquête, de transmission et d'action politique. Et ce que dit aussi Shohrah Makarimi, ce qu'elle appelle les politiques de l'attachement, l'idée que certains liens à un territoire, à une histoire, à des disparus deviennent des forces de résistance. Je voulais savoir comment ça résonne en vous et comment ces deux idées-là de l'autorité de l'archive dans un sens, qui a cette autorité-là pour inscrire une archive dans la mémoire de l'archive à transmettre, et puis la politique de l'attachement. Est-ce que vous, votre projet, il part d'un attachement à un territoire ou une forme de nécessité à enquêter sur le territoire?
Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, c'est quand elle évoquait le fait que ça m'a interrogé en fait sur ma propre définition et considération de l'archive quand elle évoque le fait qu'on archive dès lors qu'on n'a peut-être plus besoin de quelque chose. Et je me suis interrogé en l'écoutant et je pense qu'il y a peut-être de ça. C'est que j'en ai peut-être pas besoin tout de suite, mais il y a comme une urgence à le faire parce que ça va partir sinon. Parce que les gens sont partis et que les personnes concernées n'ont pas pu s'exprimer. Ou en tout cas, moi, j'ai pas pu recevoir parce que le silence. Et le silence existe beaucoup dès lors que les récits sont aussi violents ou ce qui a été subi est aussi violent. Et donc, je pense qu'il y a à la fois la nécessité pour moi de collecter vite avant qu'on n'y ait plus accès. Et certaines choses, je sais déjà les utiliser et d'autres, je ne sais pas encore ce que j'en fais. Mais je les collecte et je les garde. Je crois que le centre d'archives, c'est aussi pour ça que je veux le construire, c'est qu'il y ait un espace qui ne soit pas que le mien. C'est juste qu'on puisse créer les outils là-bas pour que les gens puissent se raconter. Et c'est pas grave si on ne sait pas encore ce qu'on en fait. Mais il faut juste pas que ça disparaisse. Pour qui ? Parce qu'on disait l'autorité. Pour le moment, c'est pour moi. Moi, j'ai besoin de comprendre. Et après, c'est lié aussi à des choses qui sont beaucoup plus personnelles et intimes, qui sont liées à des récits de vie, où il y a des choses qui s'activent à un moment de nos vies, par des événements, par ce qu'on fait, par ce qu'on est, par là où on agit. Et je me suis beaucoup posé la question ces deux dernières années, notamment avec Chercheur d'eau, mais surtout depuis 2 ans, pourquoi on fait ce qu'on fait ? Et notamment lorsque on fait face à 2 mondes qui sont si différents, qu'on construit aussi dans une différence, c'est-à-dire que je me le renvoie à moi-même, comment on fait pour exister dans les deux ? Et je pense qu'on commence du coup à creuser pour mieux comprendre pourquoi on fait ces projets, pourquoi je fais ces projets en Afghanistan. Est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que c'est pour les gens de ma communauté ? Est-ce que c'est pour le milieu artistique dans lequel j'évolue, qui est friand des questions d'identité ? Et c'est pour ça aussi que je les ai maintenus pendant longtemps à distance. Et c'est peut-être tout ça à la fois. Est-ce que c'est pour des questions d'image, d'ego ? Et du coup, c'est aussi à un moment donné de prendre du recul là-dessus, de partir longtemps là-bas, de faire une pause, de peser le pour et le contre, de savoir pourquoi on le fait pour soi. Et je pense que le truc le plus fondamental, c'est de le faire pour soi. Et donc, c'est pour ça que quand vous évoquez la question de qui a l'autorité sur l'archive, en fait, je me rends aussi compte que je me reconnais beaucoup plus dans les démarches de personnes qui font les choses pour elles plutôt que celles qui prétendent les faire pour les autres. Je crois que c'est important d'agir pour soi. Et c'est à travers le soi, peut-être, qu'on existe mieux avec les autres aussi. Et que parfois, on se perd dans le fait de soit de faire pour les autres, soit de prétendre le faire pour les autres. Et donc sur cette question de, je pense qu'il faut faire pour soi. Ouais.
La question autour de l'autorité, elle était double aussi dans le sens de qui détermine que ce matériau-là a un statut d'archive ou un autre ne l'est pas. Et c'est peut-être pour ça que notamment Shora Makirami parle de contre-archive, je pense. C'est aussi comment créer ou fournir ou conserver des récits, des matériaux qui viennent comme une contre-réponse à l'archive officielle, à l'archive qui a le statut de valeur institutionnelle, disons. Donc c'est aussi comment créer et faire circuler une forme de contre-récit et donc de contre-archives. C'était aussi dans cette direction-là, je pense.
Ça se lit pour moi dans le sens où je pense que pendant longtemps, j'ai essayé de me mettre en opposition ou en contre-récit. Et je crois que de déplacer son centre, ça permet aussi de se dire que peut-être c'est nous qui établissons les récits et que ce que raconte l'Occident est peut-être leur contre-récit. C'est-à-dire de déplacer le centre, c'est assez important. Et ça, c'est quelque chose que j'ai aussi compris en travaillant avec ces collectifs citoyens qui sont en marge ou oublié par l'appareil politique, où je repense à Oumar, avec qui j'ai travaillé en forêt, qui vivait dans la forêt et qui, à un moment donné, disait « les gens de l'extérieur ». Il parlait des gens qui étaient en dehors de la forêt. Parce que son centre, en fait, il est acquis à cet endroit-là. Et du coup, il se construit et il parle de lui-même à partir de l'endroit où il est et pas à partir de l'endroit où on le place. Et c'est là que j'ai presque tendance à dire qu'en fait, ces archives sont des récits. Et c'est les récits des personnes qui se situent dans leur centre et qui l'évoquent à cet endroit-là depuis leur centre. Et que le reste est peut-être contre-récit.
Eh bien, c'est intéressant pour lancer le prochain extrait encore.
My name is Walid Raad. I am an artist and a professor of art in New York. Scratching on things I could disavow is a project about the history of art in the Arab world. So it's a history of, on the one hand, the emergence of large infrastructure for the arts in Arab cities, and on the other, an exploration of how culture, art, and tradition are affected by a history of violence in the Middle East and the Arab world.
Alors, je vais commencer par traduire ce qu'on vient d'entendre. Je m'appelle Walid Rad, je suis artiste et professeur d'art à New York. Stretching of Things I Could Dissolve est un projet consacré à l'histoire de l'art dans le monde arabe. Il s'agit à la fois d'une réflexion sur l'émergence de grandes infrastructures culturelles et artistiques dans plusieurs villes arabes et d'une enquête sur la manière dont la culture, l'art et les traditions sont affectées par les différentes formes de violence qui ont traversé le Moyen-Orient et le monde arabe. C'était la voix de l'artiste libanais installé aux États-Unis, Walid Rad, dont la pratique consiste à construire de fausses archives pour raconter une guerre dont les récits officiels lui semblaient insuffisants. Alors, il était rare de trouver sa propre voix, donc c'est pour ça que je me suis attachée à cet extrait qui ne raconte pas sa pratique, mais qui permet de le faire entendre. Vous, au contraire, vous collectez donc des récits situés, des témoignages et des traces matérielles et concrètes, mais dans les deux cas, il y a cette même question. Lorsque les récits se contredisent, lorsque les archives sont incomplètes ou produites par des rapports de pouvoir, qu'est-ce qui fait encore vérité? Et c'est la question du régime de vérité qui est posée dans un sens. Est-ce que votre travail cherche aussi à documenter une histoire ou à construire les conditions d'une autre forme de vérité pour aller plus loin sur ce qu'on disait tout à l'heure du centre et de la marge, de la binarité en opposition et de déconstruire complètement ce schéma-là pour se déplacer ailleurs?
Oui, c'est très intéressant et puis j'aime beaucoup ce qui est raconté dans cet extrait. J'ai l'impression qu'encore une fois, il y a un début de réponse qui me convient dans la question, c'est-à-dire que j'ai tendance à dire que je me permets aussi d'intégrer de la fiction. Je crois qu'on en a besoin et je crois que, de fait, vu qu'on est dans des traditions orales, tout se raconte, se transforme, se perd, se déplace. Et la question, c'est quel sens et quel propos on veut atteindre. Et dans les cultures afghanes, il existe beaucoup de mythes, de légendes, de poésie, de fiction. Je crois que c'est des choses qui me nourrissent beaucoup, dès lors qu'en fait, il est nécessaire pour moi aussi de faire du lien avec l'histoire, parce que c'est un pays qui a une histoire tellement ancrée et ancienne, qui a des histoires, et surtout que c'est un pays de montagne, donc on est c'est très enclavé d'un bassin versant à l'autre. Tout fonctionne en bassin versant parce qu'il y a des montagnes. Sur 20 km, on a des accents différents, on a des manières d'habiter différentes. Et donc, il y a beaucoup de récits. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de construire les ponts entre des récits contemporains et des récits mythologiques, voire des événements de l'histoire qui ont existé. Je pense par exemple au fait qu'Alexandre le Grand soit allé jusqu'au fleuve Indus, qu'on a des architectures grecques, de temples grecs qui existent en Afghanistan, ce qui est complètement hallucinant. Donc il y a une photographie qui moi m'impacte beaucoup d'un Mujahideen dans les années 80 qui est assis au pied d'une colonne corinthienne. Donc c'est complètement, on a l'impression que c'est des bugs de l'histoire. Du coup j'aime bien travailler là-dessus et de jouer de ces éléments qui semblent pas vrais mais qui sont vrais et à l'inverse d'en créer d'autres qui créent le trouble. Je pense qu'on a c'est nécessaire. Parce que ce qui compte pour moi, c'est pas d'être dans un régime de vérité absolue. Ce qui compte, c'est qu'est-ce que raconte l'œuvre qu'on produit. Par contre, dans ce qu'elle raconte, j'ai besoin que ça touche à quelque chose qui soit juste et vrai pour les sociétés afghanes et pour moi.
Je sens un souci de méthode, de précision, d'organisation avec une matière ou un matériau ou des récits ou des personnes qui se situent dans d'autres régimes de parole, ne serait-ce que ça. Et c'est intéressant de pouvoir circuler entre les deux. Je pense que vous le disiez au tout début, c'est-à-dire de cette place entre les deux. C'est une place entre. Est-ce qu'elle est si confortable, cette place-là? Comment vous créez la porosité où vous circulez en ayant à la fois le dedans et le recul dans un sens?
Je pense qu'au départ, de travailler simplement en recherche et en écriture, c'était aussi d'interroger mes endroits de légitimité. Je pense que c'est des questions qui viennent de manière assez récurrente chez les artistes, dès lors qu'il s'agit de questions culturelles. À quel moment est-ce qu'on se sent légitime ou non? Le terrain et les allers-retours une à deux fois par an depuis 15 ans, au bout d'un moment, m'ont permis de comprendre que j'avais moi-même projeté sur les personnes de ma communauté, de ma famille avec lesquelles je travaille, des choses. Je pensais qu'ils ne pourraient pas comprendre le registre de la fiction, alors que c'est l'inverse complètement. Et je vais prendre un exemple, c'est-à-dire que moi j'ai tourné un film qui s'appelle « Des hommes sous la terre » l'automne dernier, où je suis resté 3 mois, et j'avais envie de reconstituer un temple grec dans le désert afghan. Et je me suis dit, mais comment je vais faire ça avec les autorités qui sont en place actuellement? Comment je vais faire ça avec les gens que je filme? Est-ce qu'ils vont le comprendre? Et ce qui m'intéressait, c'est que en fait, les korez, qui ont été évoqués tout à l'heure, les galeries d'eau souterraines millénaires, que je réactive avec les derniers korezkan, ce qu'on appelle les creuseurs de galeries, pour les creuser, c'est des lignes horizontales souterraines qui vont du désert à la montagne. Et tous les 15, 20, 30 mètres, ça dépend, on a un trou vertical qui est creusé pour excaver la terre et oxygéner la galerie. Sinon, on étouffe dans les souterrains. Et donc, ces trous qu'on voit depuis le ciel ou dès qu'on est sur une colline, ils partent du sol vers le sous-sol. Ils sont circulaires, ils sont sombres et ils sont vides. Il y a le négatif inverse de cette architecture qui sont les colonnes qui restent de l'héritage d'Alexandre le Grand. C'est-à-dire qu'elles vont, elles, du sol au ciel.
elles sont circulaires, elles sont pleines et elles sont blanches. Et quand j'ai eu ce truc-là qui m'est apparu, je me suis dit, tiens, c'est le négatif positif l'un de l'autre. Les Corées ont 3000 ans d'existence, les temples d'Alexandre le Grand 2300 ans. Il y en a un qui est massivement bombardé, le Corée afghan, et les temples d'Alexandre le Grand n'ont pas été bombardés, parce qu'ils renvoient à une civilisation occidentale. Donc les gamins, parfois, jouent au cricket autour. Et ça m'a vachement intéressé, parce que c'est aussi, quand on parlait de régime de vérité, c'est une réécriture des États occidentaux, parce que les Afghans considèrent qu'Alexandre Sikandar, c'est leur culture. Et donc, c'est là que se pose la question des points de vue, des perceptions, des récits et des contre-récits. Et moi, je m'empare des deux. Et je reconstruis cet espace-là où, dans le film, justement, je mets en scène des choses avec des personnes concernées et qui ont compris tout de suite. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est que je crois qu'on est à la fois des êtres pas binaires. La société est beaucoup plus complexe. Et c'est aussi la pensée cartésienne. C'est aussi pour ça que je parlais du fait que l'extractivisme, il est aussi à l'endroit. Dès que le corps se déplace, c'est le système de pensée qui change. Et là-bas, les gens ne sont pas dans la configuration du gentil et du méchant. Le mot méchant n'existe pas en pachto. Le mot qu'on utilise, c'est bad, qui vient de l'anglais. C'est plein de choses comme ça qui font qu'à mesure qu'on passe du temps là-bas, on comprend que le mécanisme de pensée n'est pas le même, que du coup, il faut déplacer la manière de construire le récit aussi. C'est là que j'aime m'emparer des deux points de vue, de les mélanger, de les tordre, de comprendre les mémoires, les récits des gens qui ont éprouvé les choses, d'injecter de la fiction. Parce que ce qui compte à la fin, c'est le propos que moi, je veux faire exister. Et je pense que c'est important aussi que les artistes parlent en leur nom. Et ça, c'est aussi ce temps de pause et de déplacement qui m'a permis de comprendre ça.
Et peut-être juste préciser avant de passer à l'extrait suivant que vous êtes né en Afghanistan, mais que vous êtes arrivé en France à 4 ans. Donc c'est aussi cette circulation-là qui permet de vous situer, donc de créer votre propre récit situé dans cette circulation-là. But they cannot touch the foundation of America because we're the brightest beacon. These acts shatter steel, an opportunity in the world, and no one will keep that light from shining. Today, our nation saw evil, the very worst of human nature, and we responded with the best of America. After running my order, resources of the United States military has begun strikes to find those against Al-Qaeda terrorist training camps and to bring them to justice. Military installations of the Taliban. We will make no distinction between the terrorists who committed targeted actions are designed and those who harbor of Afghanistan. Alors j'aimerais que l'on s'attarde maintenant sur cet opus tout récemment créé. Ce que le ciel ne sait pas est une œuvre chorégraphique, plastique et musicale. Une pièce construite pour 5 danseurs et danseuses autour d'une installation monumentale au centre du plateau sous forme d'un immense escalier hélicoïdal, une structure verticale qui évoque une vis sans fin. Peut-être revenir sur le désir qui a présidé à ce projet. Pourquoi avoir eu besoin de la danse pour raconter ce fragment-là de l'histoire, ou peut-être pour le dire encore autrement, à quel moment vous avez compris que certains récits ne pouvaient être portés que par des corps?
J'ai une formation d'architecte à la base qui m'a appris à dessiner des objets fonctionnels. J'aime bien prendre l'exemple par exemple de la chaise, c'est-à-dire qu'on dessine des objets en fonction de l'ergonomie du corps. Donc on va dessiner la chaise entre 40 et 45 cm de haut parce que le pli de notre genou, de notre tibia péroné fait telle longueur et du coup le confort est à cet endroit-là. Et je crois qu'au bout d'un moment, ça m'a de moins en moins intéressé de travailler sur des objets fonctionnels qui ne racontent exclusivement ou qui sont au service exclusivement d'une physicalité du corps. Et ce qui m'intéressait, c'était plutôt de savoir comment est-ce qu'on met en récit des émotions, des traumatismes, des choses qui sont impalpables, des souvenirs, des mémoires, des histoires. Et je crois que c'est là que j'en suis venu à la fois au mouvement et au film, qui me permettait de mieux raconter ces choses qui sont pas visibles, pas palpables. Et donc quand j'ai commencé à travailler en recherche sur ces enjeux d'extractivisme liés à cet escalier hélicoïdal qui est une foreuse en fait, qui fore les sols, j'ai commencé à me dire que l'endroit le plus intéressant pour raconter ça, c'est la question des corps et du mouvement sur un plateau. Et donc c'est là que j'ai invité Saïdo Leloup à venir collaborer sur ce projet-là avec moi.
Je trouve que Feda a un rapport très noble à sa démarche artistique, parce qu'elle est toujours en écho à ce qu'il renvoie de ses origines en Afghanistan. Et comment ça accompagne aussi en continuité une reconstruction de son environnement d'origine. Et c'est ce qui, pour moi aussi, apporte une certaine fidélité à sa démarche. Et mon regard, il se porte vraiment sur l'humain, je pense. Vraiment sur l'humain. Et aussi à l'endroit de son exigence et à l'endroit de son regard. De son regard sur... le travail que l'on a en commun, les échanges qu'on peut avoir et comment sa critique va être support et soutien dans le dialogue. Et je trouve que il y a dans son désir toujours rendre précieux et donner une valeur aux objets qu'il crée, qu'il touche, qu'il dessine. Ouais, ça me touche.
Ici, Saïdou Lahlou évoque en quelques mots la rencontre entre vous. Comment ensuite vous avez travaillé à cette écriture à quatre mains? Par exemple, la pièce pose trois espaces, le ciel, le sol et le sous-sol. Est-ce que c'est une idée avec laquelle vous êtes venu et qui a permis par la suite de poser la dramaturgie de la chorégraphie et la dramaturgie spatiale dans un sens? Ou est-ce que c'est ailleurs en cours de process, par exemple?
Je n'étais pas au courant de cet extrait. Et du coup, je suis hyper touché par ces mots et je lui renvoie, évidemment. En fait, il y avait deux choses qui, pour moi, étaient assez précieuses et qui étaient un peu comme des balises ou des guides. C'était la question des enjeux d'extractivisme que j'ai évoqué tout à l'heure et la question des points de vue. Ciel, sol, sous-sol. Le ciel, c'est l'endroit de contrôle de l'appareil impérialiste depuis lequel l'Afghanistan a été observé. Les sous-sols, c'est les endroits de résistance depuis lesquels on a réactivé des voies d'eau. Et les sols, c'est l'endroit un peu des... C'est l'interface entre les deux. C'est cette surface très fine qui est celle des stigmates. À la fois les cicatrices sur les corps, à la fois ce qu'on a fait au paysage. Et donc ces deux enjeux ont été un peu les portes d'entrée pour écrire la dramaturgie. Et je pense qu'à partir de cette dramaturgie-là, Saïdou a... Moi, j'ai un peu découvert aussi sa méthodologie de travail, au plateau notamment, pendant les répétitions et les studios, que j'ai trouvé très intéressante parce qu'il a beaucoup d'estime pour les interprètes avec lesquels il travaille. Et donc, il ne fonctionne pas dans des... J'ai peut-être pas les bons termes que les chorégraphes utiliseraient, mais ce n'est pas des espèces de gammes surécrites où il demande des gestes précis que lui projette. Il est plutôt dans des échanges longs. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est beaucoup nourri de nos échanges. Et ça allait dans les deux sens. Moi aussi, je me suis nourri de ça. Mais que derrière, il a réussi à faire infuser ça chez ses interprètes. Et c'est ça que j'ai trouvé très beau à voir. Et du coup, il pose plutôt lui aussi des balises dans lesquelles les interprètes créent, construisent avec lui, construisent avec nous. Et ça crée des situations qui sont des situations du quotidien, qui sont ses récits, en fait. Et donc, j'ai appris sur le tas avec lui parce que j'avais aussi bossé avec d'autres chorégraphes par le passé qui ont des méthodologies différentes.
Et je le disais, la pièce se structure autour d'une installation monumentale au centre d'un plateau incliné sous forme d'un immense escalier hélicoïdal et cette structure verticale qui évoque aussi cette vis sans fin. La forme renvoie, vous le disiez, à la fois à l'outil qui permet de creuser, de chercher l'eau, de faire remonter la matière, mais aussi l'instrument de l'extractivisme. La même forme peut servir à irriguer et à piller, à faire jaillir l'eau ou à sonder les sols pour en extraire les minerais, les gaz, le pétrole ou autres ressources. Et j'ai l'impression que tout l'enjeu de la pièce est là, montrer comment un même outil peut porter deux récits opposés. D'un côté, l'histoire d'une extraction coloniale, militaire, économique qui vide les territoires de leurs ressources, épuise les corps, déplace les populations, efface les identités culturelles, vous l'avez dit. Et de l'autre côté, l'histoire d'une résistance souterraine, paysanne, artisanale, qui cherche l'eau, répasse les corrèzes, maintient les savoirs et rend possible la vie. Comment cette image hyper puissante de la foreuse s'est imposée à vous comme centre dramaturgique du projet?
Ce projet, j'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans. La forme est apparue il y a 1 an. J'essaye de pas m'obstiner à toujours trouver les formes très vite. Parfois, la forme vient et le récit, je le construis autour de la forme. Là, en l'occurrence, ça a été l'inverse. Et c'est lorsque je suis retombé sur une vidéo. En fait, je travaille là-bas avec un sourcier qui s'appelle Youssouf, donc qui trouve l'eau avec des baguettes de sourcier. Et ça marche, pour ceux qui en douteraient. Et il avait ciblé un endroit. Et ensuite, c'est un endroit, selon lui, ou pour le traduire littéralement depuis le pachto, une veine d'eau souterraine passe. Et en fait, dès qu'il y a deux veines d'eau qui se croisent, c'est un point fort. Il y a un magnétisme qui se fait avec la baguette de sourcier. Simplement, on ne sait pas les veines d'eau, elles se croisent à quelle hauteur. C'est-à-dire qu'il peut y en avoir une à 15 mètres de profondeur et l'autre à 90. Et donc, souvent, on va venir percer le sol à l'endroit où il y a deux veines d'eau, ou plusieurs veines d'eau, parce qu'on a plus de chances d'atteindre de l'eau. Et c'est surtout qu'en fait, les galeries d'eau qui se sont effondrées et que j'essaye de rénover, bah certaines ont toujours de l'eau, mais on ne sait plus où elles sont. Parce que l'exil, parce que la sécheresse, parce que les gens ne sont plus là pour les raconter, et que c'est des galeries qui ont parfois mis des siècles à être creusées. Donc tout l'intérêt, c'est de se dire, ok, comment est-ce qu'on réactive ces voies d'eau? Parce qu'en fait, elles amènent de l'eau en continu et par gravité. Et quand ils ciblent un endroit, moi j'ai fait venir du coup une foreuse, mais qui fait 30 cm de diamètre.
à peine. Et donc ça perce pendant un jour, pendant deux jours, et à un moment donné, tel un geyser, il y a l'eau qui jaillit, et c'est une eau qui est coincée dans une poche pendant 10, 20, 30 ans, et ça nous permet de réaccéder à quelque chose qui a existé par le passé, et de réactiver cette voie d'eau qui n'existait plus, et qui réapparaît ensuite en surface, parce qu'une fois qu'elle elle traverse les piémonts, et une fois que la topographie du sol passe sous la galerie d'eau, bah, l'eau sort à la surface. Et quand je suis retombé sur cette vidéo que je crois que j'avais filmée en 2023, je me suis dit, ah mais il est là l'outil. Et vous l'avez assez bien résumé, c'est que le même outil en version XXL permet de sonder les sols, et c'est plutôt les entreprises de sondage liées aux États occidentaux qui viennent et qui cherchent des gisements à extraire et à piller. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, je pense que l'histoire n'est jamais binaire. Et c'est pour ça que ça m'intéresse, à travers un même outil, de raconter deux pendants. Qui sont soit des récits et des contre-récits, mais parfois ça ne s'oppose pas nécessairement non plus. C'est plus complexe que ça, et c'est cette complexité qui m'intéresse. Je crois que je ne veux pas mettre en opposition tout. Il y a des choses qui s'opposent évidemment, mais je crois que tout ne s'oppose pas.
Je pense que le désir commun, il vient de l'envie de voir des corps traverser certaines fragilités et comment des gestes justes du quotidien viennent raconter une grande force, une solidité et une autodétermination et détermination du soin et du cycle de soins et de comment donner de la valeur à ce qui existe au quotidien dans des formes de résistance qui ne sont pas spécialement nommées comme des résistances, mais le fait de planter, le fait de creuser, le fait de construire, le fait d'être en lien avec l'organicité de son environnement dans son toucher, à mon endroit, et du coup en réponse aux recherches et ce que Feda souhaite raconter à travers ce que le ciel ne sait pas, vient donner de la valeur à ce que l'on connaît de son corps et de son geste familier, et pas spécialement à l'endroit de l'interprète ou du danseur ou de la danseuse, mais à l'endroit de l'humain et comment oui, sa corporalité, ses habitudes, sa façon d'être, sa façon de bouger, sa façon de se tenir, sa façon de tenir, est juste et consolidé. Je pense que il y a ce désir commun d'être dans une forme d'intimité à tous ces sujets, qui est reflété par la présence des interprètes et qui donne aussi une démarche narrative, dramaturgique et chorégraphique pour le coup. Et je pense que le désir commun il vient aussi du dialogue et le fait de constamment penser ensemble, réfléchir ensemble, structurer ensemble, déstructurer ensemble. Feda est directeur artistique sur ce projet et on est parti de récits que lui il a en mémoire depuis son plus jeune âge, et moi en réponse à ça je suis parti de situations avec les interprètes, donc de situations très calmes, se chuchoter, se regarder, se tenir, avancer ensemble, se porter, se reposer, être dans des rythmes de circulation communs, comme des cycles et des répétitions. Et ça a été, pour ma part, en réponse à toute la recherche qui va au-delà de ce que le ciel ne sait pas chez Feda, mais qui est aussi une analyse de ces 30-40 dernières années sur la question de l'extractivisme, la question de l'oppression, de la présence oppressante en Afghanistan. Et j'ai voulu, et avant tout, ça a été un peu ma seule réponse, de partir de situations qui rappelle le familier, qui rappelle le lien entre les gens. Et je pense que une fois cette réponse proposée, on a tiré les fils ensemble.
On retrouve ici Saïd El Ahlou qui poursuit le récit de cette aventure collective et revient sur la manière dont l'écriture chorégraphique s'est construite au contact de cette installation monumentale. Et ce qui me semble particulièrement intéressant lorsqu'on découvre l'œuvre, pour ma part je l'ai vue à Marseille, c'est la manière dont la danse vient déplacer la question même de l'archive. Car si l'installation donne forme à une histoire, à des infrastructures, à des traces matérielles et géologiques, les corps, eux, semblent prendre en charge une autre mémoire, plus fragile, plus mouvante, plus difficile à saisir. Et une mémoire faite de gestes, d'efforts, de transmissions et d'expériences vécues, comme si la chorégraphie venait rappeler que les violences coloniales, les déplacements, les savoir-faire menacés ou les formes de résistance ne s'inscrivent pas uniquement dans les paysages ou les ruines, mais aussi dans les corps qui les traversent, et qu'à côté des archives matérielles, qui soient archives contre-archives, archives alternatives, il existe des archives incarnées, constamment rejouées, transformées, réactivées par celles et ceux qui les portent. Et j'aimerais que l'on revienne justement sur cette dimension. Comment la danse pièce est arrivé pour coécrire avec l'installation et faire circuler ses mémoires et ses récits autour de ce décor, le corps avec le décor, comment il s'est écrit?
D'une part, je pense que il y a eu quelque chose dans le travail ou la réflexion de Saïdo que je comprends a posteriori et qui m'a beaucoup intéressé et ému. C'est comment il a su s'emparer de récits, et il l'expliquait très bien avec ses mots, de récits que j'ai traversés, qui m'appartiennent ou qui ont été traversés par des gens très proches, et que lui n'a pas décidé de les contextualiser depuis la perspective occidentale. C'est-à-dire qu'il s'en est emparé et il parlait à un moment donné de chuchotement. Et en fait, il a réussi à faire exister ça depuis le centre et le corps des interprètes, qui se sont aussi saisis de ça. Je pense par exemple, ce qui me vient très vite à l'esprit, c'est le premier solo, qui est celui de Mehdi Baki, où moi je vois une situation très claire d'un de mes oncles. Parce qu'il y a eu ces échanges, parce que Saïdo a compris des choses, j'en ai aussi parlé avec Mehdi. Mais c'est comment est-ce qu'on met en avant la question de l'anecdotique presque? Et ça, moi, ça m'intéresse beaucoup. On n'a pas besoin de raconter les grands récits, on a besoin de raconter les choses très subtiles qui, à un moment donné, sont révélatrices d'une violence, non pas en racontant la violence, mais en racontant comment est-ce qu'elle a été vécue et subie par les premiers concernés, à savoir les Afghanes et les Afghans. Et c'est là que je trouve qu'il y a eu quelque chose qui sonne assez juste pour moi dans la manière dont Saïdo s'est chorégraphiquement emparé de ses récits, ses enjeux dramaturgiques, ses intentions, et de les faire exister au sein de ce plateau avec cette œuvre et en cohabitation avec elle.
Peut-être une question hors sujet, mais est-ce que par exemple cette installation aurait vocation à exister en dehors du projet chorégraphique vivant, j'allais dire? Est-ce qu'elle pourrait faire objet d'une programmation dans le cadre d'une biennale, par exemple?
Tout à fait, mais dans une forme et une disposition qui ne serait pas la même. Quand on l'a montée à Marseille, j'ai vu une situation où cette foreuse était complètement éclatée dans l'espace, avec des tronçons qui étaient en attente, et je me suis dit, attends, là, il y a quelque chose qui est assez beau, avec un morceau qui tourne, un autre qui est suspendu, un autre qui est sur une palette, deux autres qui arrivent sur des transpalettes, comme si on ne savait pas si elle allait chercher un autre territoire et forer d'autres endroits, ou si elle avait été démontée et déconstruite, parce qu'il y avait une forme d'autodétermination, et j'aimais bien cet entre-deux sans trop savoir. Et là, je me suis dit, tiens, elle peut aussi exister seule, peut-être avec un support lumière et son.
Et c'est vrai que moi, l'idée m'a traversée parce que le contexte d'accueil à Marseille était assez beau. Enfin, il faut dire que c'est un patio, enfin un espace extérieur, en tout cas, du Musée de la Vieille Charité à Marseille. Et donc, c'est aussi un contexte de jeu extérieur. Ça jouait à 22h. Enfin, ça disait aussi quelque chose de l'in situ qui venait donner une expansion au récit qui aurait peut-être, pour ma part, pas eu le même effet, le même écho que si c'était dans une boîte noire, par exemple. C'est pour ça que la question a émergé chez moi. Donc, c'est tant mieux si elle peut trouver vie en dehors.
Après, elle est bien plus puissante, selon moi, avec son plateau incliné, la chorégraphie par-dessus, puis enfin, tout ce qui va avec, les corps. C'est une autre histoire. C'est deux œuvres différentes.
En fait, bien sûr.
C'est deux œuvres différentes. C'est deux récits différents. On ne raconte pas la même histoire.
C'est la puissance aussi de ce projet, finalement, qui peut aussi tirer des fils, s'activer, se réactiver, se désactiver au gré des besoins et en donnant, en partageant des fragments, mais qui sont tout aussi justes en eux-mêmes, quoi. Vous parlez beaucoup des générations qui arrivent après vous ou des générations de vos neveux, vous disiez tout à l'heure. Vous parlez aussi des langues qui disparaissent, des savoirs qui se perdent ou des récits qui s'effacent. Et dans le fond, je me pose la question, ce travail, vous l'avez beaucoup dit, vous le faites d'abord pour vous, mais il y a aussi la question de l'adresse. Et donc, à qui il s'adresse? Est-ce que c'est les institutions occidentales, les publics, les générations futures de votre propre communauté? Est-ce que c'est pas votre question? Et dans un sens, ça vous échappe aussi?
Je pense qu'elle s'adresse aussi à moi et à des silences que j'essaye de comprendre. Et donc, sincèrement, je crois que ça m'aide aussi presque dans une approche thérapeutique et d'ouvrir des endroits qui ont été fermés très longtemps. Et du coup, elle s'adresse, je pense, aussi à ma communauté, ma famille, les gens là-bas. En fait, quand on creuse les sols, les corés, j'ai commencé à en creuser un nouveau l'an dernier. Et donc, c'est un travail qui va peut-être prendre 20, 30, 40 ans, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'on trouve l'eau. Et en fait, à un moment donné, quand on creuse, l'eau n'arrive pas d'un coup parce que c'est de la roche. La roche commence à briller. En pachto, on dit que la roche sue. Et en fait, quand on quitte le corez, c'est-à-dire c'est des galeries très très étroites, quand on le quitte le soir et que le lendemain matin on arrive, on a une flaque au sol. Et donc la personne avec qui je travaillais, qui s'appelle Rahmatullah, avec qui je travaille depuis pas mal d'années, il a pris cette eau entre le creux de ses mains et puis il a dit Bismillah et puis il l'a bu.
C'était une eau boueuse et en fait, il a dit qu'elle était très sucrée. C'était un moment assez exceptionnel parce qu'en fait, on a passé 2 mois ensemble en silence dans ce trou. Moi, la caméra sur les genoux et lui a tapé le sol constamment tous les jours. Il a 55 ans, il fait ça depuis 40 ans. Et ce moment, il était absolument merveilleux. Ça a été un moment très impactant parce qu'en fait, en filmant ensuite, le film s'appelle « Des hommes sous la terre ». En filmant d'autres hommes qui ont 70 ans passés, j'ai presque l'impression qu'en fait, ma caméra imposait un silence parce que je ne parlais pas, j'avais la caméra, et qu'il y avait des silences très longs que je filmais et que progressivement, ça a installé une confiance. Après, toutes ces personnes que je filmais, je les connais depuis très longtemps et que j'ai eu l'impression que ces hommes ont commencé à suer leur... Enfin, à un moment, ça craque, ça pleure et que j'ai l'impression que c'était des gros rochers et qu'ils ont sué leur eau aussi à un moment donné. Quand on parle de l'adresse, je pense que ces projets qui sont mis en œuvre, moi j'ai l'impression que pour moi et pour certaines personnes avec lesquelles je travaille, ils sont aussi thérapeutiques parce qu'ils permettent d'établir un langage nouveau dans le fait de se raconter, qui n'existait pas, et qu'il y a beaucoup de choses à raconter, et qui sont gardées en silence depuis très longtemps. Et donc je crois que pendant longtemps, je me suis adressé aux institutions, mais que là, j'en ressens plus le besoin, ni un public autre que celui de ma communauté. Après, je ne suis pas pudique vis-à-vis de ces œuvres. Donc, elles peuvent être montrées, mais leur adresse dans l'intention première, elle est pour moi, pour les silences, pour les comprendre et les travailler, et pour les personnes que je filme avec lesquelles je travaille.
Vous le disiez au tout début que ces œuvres-là produites ici doivent aussi générer une économie qui retourne là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire et pourquoi c'est important pour vous que la circulation des récits s'accompagne également d'une circulation de ressources dans un sens ?
Parce que quand je moule le corps de mon oncle qui a été visé par un drone américain et que ensuite j'expose dans une institution française du coup dont l'État est intervenu en Afghanistan aux côtés de l'US Air Force et que je présente un moule de son corps cicatrisé. C'est-à-dire tout ça, je lui explique, évidemment. Mais je pense que ça, la réparation passe par une reconnaissance de ce qu'il s'est passé. Et de fait, ça passe aussi par une redistribution des richesses. Et donc, il y a des œuvres que j'ai pas ramené tout son corps en moule parce que mon bagage ne me le permettait pas, mais j'ai ramené toute la partie de son tibia et de son péroné. Et donc, c'est aussi pour moi de me dire comment je produis de la matière là-bas qui voyage ici, qui génère une économie qui retourne là-bas. Et à partir de cette économie-là, je génère des œuvres qui sont là-bas aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'une question de « on montre ici ». Je pense qu'il y a aussi une nécessité de produire et de se raconter là-bas aussi. Et c'est pour ça que quand on parle à la question de l'adresse, on pourrait presque se dire que le fait de s'adresser ici à des publics, je me pose la question si moi j'en ai besoin. Je ne suis plus dans cette relation de me dire « j'ai besoin de faire de la pédagogie à un État qui a fait du mal, dont je suis le citoyen ». C'est-à-dire que c'est les deux. Hein. Moi, j'ai juste besoin aujourd'hui pour moi-même de trouver des réponses, peu importe où c'est montré, mais j'ai aussi besoin que ce soit visible et accessible pour les personnes que je filme et avec lesquelles je travaille là-bas. C'est aussi pour ça que je veux monter ce centre d'archives là-bas.
Vous voulez en dire plus que 2 mots sur ce centre d'archives pour clôturer peut-être notre échange ?
Ouais, l'idée c'est d'avoir un lieu qui est à la fois un lieu dans lequel on peut apprendre des choses, dans lequel les savoir-faire se gardent et se transmettent, dans lequel on peut être nourri et logé, et dans lequel on peut produire des œuvres et les archiver. Et ces œuvres peuvent ensuite voyager et créer une économie, mais il y en aura toujours une version qui sera présentée là-bas. Ce format-là, bien entendu, il sera spécifique à ce que je vais monter à ce territoire, mais il s'inspire aussi de démarches qui existent ailleurs dans le sud global, que d'autres artistes ont mis en place, et c'est aussi, je pense, l'idée de se dire comment est-ce qu'on crée des ponts entre ces lieux-là, à terme.
Vous pourrez retrouver le travail de Feda Wardak dans plusieurs rendez-vous à venir. En septembre, d'abord à l'Académie der Kunst de Berlin, puis à Munich avec une nouvelle installation. Le 22 octobre, certains de ses films seront présentés à la Fondation Cartier à l'occasion de l'exposition d'Ibrahim Mahama. Puis du 17 au 19 décembre, « Ce que le ciel ne sait pas » sera repris à la Grande Halle de la Villette dans le cadre du Festival d'automne. Et en mai 2027, Feda Wardak présentera plusieurs œuvres de son répertoire de chercheurs d'eau à Toulouse pour le festival Nouveau Printemps. C'était Le Beau Bizarre, un podcast du studio indépendant Audio Sauti, disponible sur les plateformes d'écoute. Et si vous appréciez ce travail réalisé de manière entièrement bénévole, sachez qu'une cagnotte Tipeee existe. Merci pour votre écoute et merci pour votre soutien.
وقت سلیده